Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. Et ça n'a jamais été aussi vrai par ces températures caniculaires. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. On va profiter de cette petite review de SmackDown pour perdre quelques kilos avec mon tag team partner of the day pour reviewer le monde merveilleux du show bleu. Je vous présente sous une chaleur torride un papy torréfié. Ça va, papy ?
Bonjour les petits enfants, bonjour tonton. Mais oui, ça va, j'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin de l'émission et qu'on va pas être victime, une victime de plus sur le compte de la canicule. Décidément, ouais. On vous en veut cette année, hein, entre les coronas, les canicules, c'est l'année qui est contre les vieux là.
Ah ouais, ouais, on aura tout vécu à catch-up cette année, hein. Corona, confinement, déconfinement, chaleur, canicule, c'est la totale. Ouais, écoute, il nous manque plus que la grippe, mon bon papy, en septembre-octobre, et puis la gastro à Noël, et puis on aura fait le grand chelem.
Exactement, si on s'en sort après ça, je pense qu'on peut résister à tout.
Bon, voilà, bah écoute, je te propose que pour les awards de la fin d'année, on se prévoit une petite ceinture spéciale, quoi, tu vois quoi. J'ai survécu à 2020.
Voilà.
Et voilà, ceux qui ont passé cette année-là, bah, respect.
Allez. 20 Survivors.
Voilà, ouais, des vrais Survivors. Allez, voilà, alors les amis, on est dans le monde merveilleux du show bleu, donc on est dans le monde de SmackDown, le 1094e épisode, rien que ça, qui se passe donc à Orlando, en Floride, USA, au WWE Performance Center. Alors, ça va commencer comment, ce show bleu ? Ça va commencer avec une récap du match du Swamp Fight entre Wyatt et Strowman à Extreme Rules, qu'on avait analysé ensemble, il me semble, mon bon papy, déjà, à l'époque.
Oui, ça me parle.
Ouais, ça me parle aussi. Et voilà, et on nous remontre donc la dernière image sur laquelle on s'était quitté, peuple de catch-up, la semaine dernière, avec le Fiend qui attaquait Alexa Bliss en lui passant sa mandible claw. On nous dit que ce soir, il va y avoir une nouvelle édition du Firefly Funhouse, et que Wyatt va évoquer l'attaque, la première attaque du Fiend sur Bliss. Voilà, ainsi s'ouvre ce SmackDown. Plus sérieusement, plus catchesquement parlant, on va avoir un match dans la foulée qui va se dérouler entre Matt Riddle et Sheamus, qui est donc de retour et qui là maintenant est bien de retour puisque dorénavant il catch tous les vendredis, hein, on peut dire. Hein. Donc on va avoir un match de 12 minutes. On va avoir un opener pas mal, quoi, avec une belle confrontation de style, surtout avec un Sheamus qui me semble... Tu m'en diras un peu plus, papy, mais qui me semble quand même en super bonne forme, quoi. Je le trouve shape, je le trouve agressif, je le trouve un petit peu dans une phase Sheamus d'il y a quelques années en arrière, là. Et moi, ça me plaît bien quand Sheamus, il est comme ça, quoi. Alors, on va avoir un match assez compétitif. Les deux ça va envoyer un peu tout ce qu'on peut. Ça va envoyer des tentatives de broke kick, tenter des German suplex, l'Irlandais il va même nous tenter un petit roll-up, on sait jamais, ça mange pas de pain. Il va rater un Spears et il va se retrouver à l'extérieur, et là il va y avoir Chad Gable qui va intervenir et qui va attaquer Riddle et qui va causer une DQ. Donc du coup Matt Riddle se retrouve vainqueur du match, un match de 12 minutes quoi, et ça se termine par une DQ. Alors le beatdown va continuer derrière, mais Riddle, il va placer un Superman Punch, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, tiens, avec l'aide des escaliers. Et Sheamus, il va quand même venir porter son broke kick finalement sur le ring. Ensuite, il va choper le mic et il va reprocher à Gable, évidemment, de lui avoir coûté le match. Et du coup, bah, Sheamus, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là ? Lui, il règle les comptes à l'ancienne et il porte un broke kick. Voilà. Bon, après cette série de bicycle kick dans la tronche, comment tu te sentais, mon bon papy, là ? Malgré la victoire de Riddle par DQ.
Ouais, je pense que c'est le genre de match où de toute façon ils doivent trouver une pirouette pour éviter de mettre l'un ou l'autre plus faible que, enfin bref, trop faible. Donc du coup c'est la victoire par DQ, ça permet de garder Riddle avec une victoire de prestige finalement contre Sheamus. Et Sheamus, bon lui il a pas vraiment perdu donc ça le protège un peu. Il est plutôt booké mode vénère Sheamus là, la gueule de Chad Gable, enfin Chantilly. Après le match, le pauvre, là, il a essayé de récupérer la bounty, là, la récompense, et bien, mal lui en a pris parce qu'il s'est bien fait casser la gueule comme il faut. Quoi. Voilà. Sinon, pour le match, pour revenir sur ta question, ouais, effectivement, Sheamus est bien en shape. Par contre, bon, après, je pense que ça va être le temps que Riddle fasse ses classes dans le main roster. J'ai trouvé un petit peu trop il y avait des petits temps d'arrêt entre chaque prise, entre les deux. On sentait qu'il cherchait encore un peu. C'était pas encore super fluide. Mais voilà, Riddle, bah forcément, comme il n'y a pas d'auction en ce moment, bah, les quelques matchs qu'il a, bah, c'est les matchs qu'on voit à la télé. Donc, je pense pas que ça l'aide à être super fluide dès le départ. Mais bon, on a vu que dès qu'il y avait un adversaire qu'il connaissait un peu mieux, c'était déjà mieux. Donc, je pense que ça devrait aller mieux au fil des semaines, quoi.
Ouais, pour Riddle, ça va s'avancer. De toute façon, finalement, ça fait que très peu de temps hein, qu'il est dans le main roster. Donc, au final, moi, je m'inquiète pas trop pour Riddle. Par contre, je constate que du coup, Sheamus, lui, va être de nouveau impliqué dans un segment qui va suivre tout de suite derrière. Et ça va être sa soirée un peu, Sheamus, quoi. Parce qu'on le voit, il y a King Corbin qui va l'apostropher pour lui dire que bah, c'est son million qui lui a coûté le match, quoi. Et donc, bah, Sheamus, il prévient direct. Alors là, on parle quand même de heel contre heel, hein, quand même, hein, puisque à la base, Sheamus semble toujours être un heel. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais plus ou moins compris à la fin du bar fight en particulier. Mais voilà, il explique simplement qu'il va décrocher la tête de Corbin de son corps. Et ça, c'est des belles promesses. J'aime des promesses comme ça. Et qu'il va lui mettre dans le cul. Voilà. Je crois que les choses sont relativement claires avec l'Irlandais, et ça, c'est bien. Et voilà, et en disant qu'il rigole pas, et on sait qu'il rigole pas avec ce genre de choses, notre ami Sheamus, quoi. Et Corbin, il va lui dire qu'il est chanceux ce soir parce que du coup, il a déjà un match contre Jeff Hardy qui est prévu, et que parce que sinon, il lui ferait regretter ses paroles. Ainsi se termine cet échange entre Corbin et Sheamus.
Sheamus, il est au-dessus finalement, c'est heel contre heel, mais Sheamus, il est tellement un taulier que de toute façon, même n'importe qui le fait chier, il va lui péter sa gueule en fait.
Oui, c'est clair. Là, on a Corbin face à un Grand Slam Champion, là, donc faut pas déconner non plus.
Voilà, et puis Corbin, c'était là où il y avait sa copine qui était avec ou je sais pas quoi, là. Hop, les deux ils dégagent et puis c'est terminé quoi.
Ouais, voilà.
Bon, peut-être.
Non, mais j'ai bien aimé la répartie de notre ami Irish. Vraiment, qui lui dit qu'il va décrocher la tête de son cul, de son corps pour lui fourrer dans le cul. Ouais, je dis, moi, c'est de la poésie, ça.
Voilà. Et puis, quand on voit Corbin, on a tous envie de faire ça, en fait.
Ouais, je crois qu'on en est un peu là, ouais, à catch-up. On serait quelques volontaires à vouloir faire ce genre de. À pratiquer ce genre d'expérience. Bon, ne faites pas ça chez vous. Ouais. Allez, on se quitte là-dessus. On va les revoir, nos amis Corbin et Sheamus. Et là, on va avoir un dirt sheet. Alors là, j'ai longtemps réfléchi à ce que j'allais vraiment vous commenter cette chose qui va suivre. Donc, on va avoir un dirt sheet avec John Morrison et Le Miz, qui vont avoir en invité Sonia Deville. Alors, comment on vous traduire ça couper les cheveux, blablabla, les cheveux, blablabla, les bikinis, blablabla, les concours de bikinis, blablabla. Blablabla, une perruque, blablabla. Ah, coupure micro. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, on n'est pas à Raw, il vous dit Morrison. Et il dit, OK, Retribution, vous n'êtes pas prévu pour ce soir. Et ça repart, les cheveux à Mandy Rose, blablabla. Le Bumpy Award, blablabla. Avoir embrassé Otis, blablabla. Et finalement, justement, on parle d'Otis et le Mr. Money in the Bank, au cas où vous l'auriez oublié, les amis, parce que tout le monde l'oublie de vendredi en vendredi. Débarque avec son pote Tucker, avec le coéquipier qui est là, et voilà, ils ont
sa mallette.
Et sa mallette, très important, oui, il a avec lui sa mallette. Il lui est arrivé quelques vendredis quand il est avec de parfois l'oublier derrière le titre en tronc, mais là pour le coup, il avait bien son briefcase avec lui. Et bon, finalement, ils en ont marre, hein, ils attaquent Miz et Morrison, et ils vont tenter de passer le caterpillar sur Morrison, mais David va lui sauver la mise. Alors, bon, je reconnais humblement, mon papy, que mon analyse du dirt sheet, mon play-by-play, n'était peut-être pas terrible, là, mais...
Mais c'est à l'image du vrai dirt sheet, en fait, finalement.
Voilà,
pas c'était... Terrible non plus, hein.
Voilà. Donc, des cheveux. Alors, pour résumer la situation avant de te donner la parole, c'est...
Vas-y.
SmackDown, pour les filles, le problème, c'est les cheveux. Arrow, le problème, c'est qu'elles pleurent toutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, je sais pas, moi, on les fout tous dans un sac et on tape avec un bâton. Je pense que c'est la seule solution.
Aïe.
Mais voilà, il y a bien que l'un qui l'aura mérité dans le lot. Mais non. C'est vraiment pas intéressant comme segment. Là, ce qui me fait un petit peu un coin de sourire, c'est l'ouverture avec Morrison qui dit que lui s'y connaît en underground. C'était juste ça drôle. Tu vois, c'est de dire, tu sais, le rapport à Lucha Underground, Lucha Underground, etc.
Ouais.
Bon, c'est un petit coin de sourire qui s'est levé à ce moment-là, mais si on l'a vu, le truc était bien lourd en fait. C'était pas GG. Ouais.
Ah non, c'était long. En plus, j'ai trouvé ça super long, moi, le truc. Voilà, ouais. Donc, j'imagine que Sonia Deville, quand même, elle estime qu'elle a brisé physiquement et psychologiquement Mandy Rose, quoi, juste parce qu'en fait, elle a coupé les cheveux la semaine d'avant, quoi. Et puis, bon, si tu veux, toute la blague avec la perruque, tout ça, enfin, j'ai trouvé ça lourdingue.
J'ai trouvé que les segments étaient particulièrement rallongés ça, sur ce SmackDown. Parce que
peut-être,
c'est pareil, le segment d'intro avec le résumé du Swamp Fight, il était super long, le résumé.
Oui, oui, c'était long, ouais, ouais, c'est vrai, ouais.
Et tu en auras d'autres segments dans le show qui, pareil, me sembleront super longs. Et celui-là, bah, il en fait partie. Quoi. C'est, il n'y a pas un énorme contenu sur ce SmackDown. Et par contre, tu as d'autres qui vont juste passer entre deux portes. Quoi. C'était bizarre.
Ouais, ouais.
Bon, un peu rallongé trop la sauce, je trouvais. Là. Ça manquait d'idées.
Parce que juste à la suite du Dirt Sheet, on voit quelques images en fait, de Cesaro et Shinsuke Nakamura qui remportent les titres de SmackDown à Extreme Rules. Et on va avoir un match en un contre un du champion en titre par équipe Cesaro qui va affronter Lince Dorado des Lucha House Party. Voilà, chacun accompagné avec leur tag team partner. On va avoir un match vraiment très court puisqu'on va avoir un match de 4 minutes 27. Ça va vraiment être envolé, quoi. Même si on va avoir Dorado qui va passer pas loin de réussir à voler le match en contre un Razor Edge avec un petit roll-up. Ça passera pas loin, mais ça suffira pas, quoi, parce que finalement, le Suisse va coller son neutralizer pour la victoire. Un peu foiré ou un peu mal vendu par Lince Dorado, je sais pas, tu me diras ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé le finish pas très joli par rapport à d'habitude. Cesaro, voilà. Et j'ai senti peut-être, et pourtant, c'est pas avec 4 minutes 27 de combat qu'ils devaient être trop, trop fatigués, les deux gars. Mais voilà, un match finalement pour nous installer certainement durablement une rivalité avec les Lucha House Party. Il va y avoir, je pense. On va pas être loin d'un match entre les deux pour le titre.
Ouais, je suis même pas sûr parce que les choses parties là, ils s'en sortent avec une défaite. Enfin, c'est Dorado du coup qui prend la défaite.
Ouais, c'est Dorado qui prend la défaite. C'est un 1-1, donc bon.
D'accord. Non, mais c'est pour te dire à quel point ça a été mal vendu le match. Je me suis même pas rendu compte que c'est un contre 1. Je pensais que c'est un tag team.
Ah oui, d'accord.
J'ai même pas fait attention. J'ai dit tiens, c'est pour Cesaro, il a gagné. J'ai même pas vu que Nakamura était pas rentré dans le match. Bon bah c'est pas grave. C'est moi, my bad. Mais non, ouais, le finish n'était pas bien vendu, puis le match en lui-même n'était pas bien vendu. Là, ils se sont engueulés un peu dans les coulisses. Enfin, ouf. Pas super, hein, pas super ce moment-là.
Ouais, il va peut-être falloir un peu du monde dans la Tag Team Division à SmackDown, là aussi, un peu pour animer ça. D'ailleurs, Otis et Tucker en font partie à la base, quoi, tu vois. Donc,
J'espère qu'ils vont être rapatriés, parce que de toute façon, vu qu'il ne fait rien pour sa mallette, Otis, autant qu'il retourne, disons, Tag Team en attendant, quoi.
Voilà, tu peux avoir un duo comme Gable et Corbin aussi dorénavant qui semblent être partis pour être ensemble et pour peut-être catcher ensemble à l'avenir aussi. Donc, étant que les New Day sont plus là, oh, les Ouzo, je ne sais pas trop où ils sont. Ah si, les Ouzo, je crois qu'il y en a
un qui est blessé.
Qui est blessé, ouais.
Gable, est-ce qu'il va être là au prochain épisode sur ces 3-1 parce que c'est quand même bien fait massacrer là. Alors, à voir s'il revient pour rechercher. Ça serait marrant qu'il revienne, enfin, qu'il fasse ce style, partout le moins j'essaie de récupérer le Bounty, mais je me fais massacre à chaque fois. Mais bon,
je suis pas sûr.
Hein. J'ai peur que ce soit un enterrement de première classe qui a eu lieu hier soir. Enfin, vendredi soir.
À suivre. Bon, derrière, justement, on va retrouver Otis, qui va être qui est pas content en coulisses. Et qui dans l'interview va dire qu'il va mettre sa colère dans le match de ce soir. Bon, ça va chier avec le Monster Money in the Bank. Parce qu'il a ses limites, quoi, en fait, hein, le Otis. Hein. Il dit que c'est un gars sympa et marrant, mais que là, Miz et Morrison, ils vont trop loin, quoi, et que là, on peut pas s'attaquer à Mandy comme ça, quoi. Et Tucker, qui est donc de retour dans le game, hein, vraiment, là, hein, ça y est. Voilà, il va un peu en rajouter en disant que ce qu'a fait Sonia Deville la semaine dernière, c'est pas bien, couper les cheveux, c'est pas bien. Voilà, on peut supporter des blagues, mais c'est pas bien qu'on manque de respect à Mandy. Et puis voilà, les mecs vont aller se lancer bientôt pour. Leur match tag team. Sans transition, après ce segment court, on va avoir le retour d'Alexa Bliss dans le ring. Alors là, c'était voilà, le Firefly Funhouse. Alexa Bliss est dans le ring. Le Fiend est là aussi. On a l'impression qu'il va vouloir s'en prendre à elle. Un bis repetita de la semaine dernière. Mais là, Bliss, elle va l'arrêter. Et à ce moment-là, on va entendre la voix de Braun Strowman, le champion universel en titre, qui va apparaître sur le titantron. Il va nous expliquer que Wyatt il veut jouer avec ses émotions mais qu'il se met le doigt dans l'œil parce qu'en fait il en a absolument rien à carrer d'Alexa Bliss et cet homme a tort. Ce qui m'intéresse c'est de détruire le film et moi je dirais non, je m'intéresserais à Alexa Bliss, je ferais cas d'Alexa Bliss, hein, c'est pas bien Braun Strowman. Voilà, ce qui veut lui, ce qui intéresse, c'est de détruire The Fiend. Voilà, il dit que dorénavant, c'est un monstre. Alors bon, à moins que je me sois trompé, mais il m'a semblé que Braun Strowman nous a toujours été vendu comme un monstre depuis son arrivée à la WWE. Mais bon, ah, ça y est, en tout cas, il en est devenu un vrai de vrai, quoi. Un qui est pas bien, qui est pas sympa, qui est pas gentil. Voilà. Et donc, il va dire que le Fiend aura ce qu'il voudra à SummerSlam. Donc, en l'occurrence, on imagine bien un match. Et il prévient le Fiend qu'il va falloir qu'il fasse face à ses peurs, faire face au monstre. As-tu été terrorisé, mon papy, devant ce
bien,
Brown sur le titre Anton?
Absolument pas. Le segment était intriguant au départ avec Wyatt qui ramène Bliss et puis qui ne sait pas trop à quel jeu il joue à eux deux. Et d'un coup, tu as la tête de Braun Strowman qui arrive en gros plan sur l'écran. Et qui reste en gros plan tout du long à base de je vais mes gens, attention, voilà. Monstre, regardez-moi, je suis là, oulala, je suis un ouf, j'ai tout cassé. Enfin bref, j'ai pas trouvé ça du tout convaincant en fait. Et c'est marrant parce qu'ils ont commencé le segment dans l'ambiance rouge, la fine, tous ces trucs-là. Et puis derrière, c'est parti sur Braun Strowman où il était dans son jardin certainement avec un grand ciel bleu derrière. En gros plan, en train d'enregistrer sa promo, et enfin voilà quoi, c'est cheap de chez cheap là. Et du coup, si encore il y avait eu un espèce de truc un peu dark derrière lui qui fait style, je reviens des marais, je suis transformé vraiment, mais là non, c'était Braun Strowman dans son jardin qui faisait une promo quoi. Donc moi j'ai rien écouté. Hein. Ça m'a gavé rapidement.
Au milieu de ses tomates et ses courgettes,
c'est ça, ouais.
Braun Strowman dans son jardin en train de cultiver son petit potager.
Si t'avais désolé, il y aura un tablier et des bottes, quoi.
Moi, j'ai trouvé au moins qu'il y avait une certaine logique par rapport au comportement du Fiend avec Alexa Bliss. Puisque finalement, Alexa Bliss, elle lui a filé un coup de main à Bray Wyatt pendant le match d'Extreme Rules. Elle était plutôt là en allié finalement du Fiend. Et puis là, la semaine dernière, paf le chien. Le Fiend il décide de s'attaquer à Alexa. Et puis là, finalement, le segment se termine. On se dit que peut-être que Alexa Bliss elle va rentrer dans le game, mais aux côtés du Fiend, qu'est-ce que t'en penses de ça? Si Alexa Bliss elle basculait du côté Bray Wyatt et pas côté Braun Strowman.
Alors, deux choses. Alors, moi, d'abord, je suis pas. Enfin, Alexa qui intervient auprès du Fiend dans le match Extreme Rules, pour moi c'était pas vraiment Alexa, c'était plus on va dire Sister Abigail qui prenait la forme d'Alexa Bliss pour tenter Braun Strowman ou un truc comme ça, tu vois. Je le voyais pas comme Alexa Bliss, tu vois. Je pensais plus quelqu'un qui prenait son image. Par contre, effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que ça serait une bonne chose que Alexa Bliss justement au lieu d'être alors c'est un peu couillon parce que maintenant Strowman ne veut plus la sauver, mais ça aurait été j'aurais trouvé que c'est une bonne chose qu'il essaie de la sauver, mais qu'elle finalement elle choisisse de rejoindre Bray Wyatt parce que on en parlait les semaines d'avant, elle est vraiment au bout de son personnage là dans sa tag team avec Nikki Cross. Nikki Cross a priori est plutôt proche elle d'être en solo, et du coup Alexa Bliss ça lui ferait pas mal de repartir côté heel et justement avec un personnage plus sombre que ce qu'elle avait actuellement. Donc moi ça me plairait bien qu'elle parte de ce côté là mais c'est ballot que du coup Strowman soit pas en train d'essayer de la reconquérir.
Qu'avec Nikki Cross là il va y avoir un stand-by de toute façon, ça s'était pas très bien terminé entre elles deux au dernier match de Nikki Cross. Du coup là ça fait deux semaines de suite qu'elle est impliquée dans la rivalité de Strowman. SummerSlam c'est le 23 août elle va rester au moins jusque-là dans cette affaire-là. On verra bien après pour la suite avec Nikki Cross. Quoi. Mais moi, je t'avoue que voilà, j'y ai vu un petit chouille de cohérence pour une fois. Quoi.
Jusqu'à Braun Strowman arrive, en fait. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi, mais quand l'autre il arrive avec sa caméra en gros plan, là, ça m'a saoulé.
Ouais, ça c'était après, ouais, effectivement. Après, on touche le doigt aussi sur les problèmes de micro de Braun Strowman, quoi, qui n'est pas... qui n'est pas le catcheur qui fait plus rêver en termes de promo. Quoi.
Et bon, on verra.
Hein. On verra. Alors, après ce segment qui implique quand même le titre universel, le titre majeur de SmackDown, mine de rien, quoi, qui est donc placé en milieu de carte, on va avoir un match entre Jeff Hardy et King Corbin, comme il l'avait prévu au préalable. Alors là, un match qui va être très rapide, puisque pareil, un match qui va durer 5 minutes 27. C'est Jeff Hardy qui va gagner ce match par DQ, parce que évidemment, évidemment, il va y avoir de l'interférence, causée par qui ? Causée par la vedette du jour, hein, dans l'épisode, hein, par Sheamus. Puisque Sheamus est venu porter un bro kick à Hardy pour faire perdre Corbin. Voilà, du coup, derrière Corbin et Sheamus, ils vont devoir être séparés par la patrouille, parce que vraiment, ça ne va pas du tout, ça se tabasse dans tous les sens. Donc du coup, il faut arrêter tout ça. Et finalement, on va régler le problème facilement, puisqu'on va décider de les faire s'affronter dans la foulée. Et c'est là, c'est Sheamus versus King Corbin, dans un match donc il versus il, quand même, quoi. Et alors là, le match va pas durer beaucoup plus longtemps, puisque ça va durer 5 minutes 30. Voilà. Mais là, par contre, un match qui va se terminer clean, avec le bro kick pour la victoire de Sheamus.
Enfin, clean. T'as l'attention de Matt Riddle, quand même.
Ouais. Avec, c'est vrai qu'il y a Matt Riddle vient essayer d'attirer l'attention, effectivement, de Corbin. Ça marche toujours, hein, c'est incroyable. Hein. Le mec, hein, il suffit que tu poses un
orteil
sur le tout le haut de la rampe, là, un tout petit bout d'orteil, et ça suffit pour totalement déconcentrer un catcheur qui est dans le ring. Et voilà. Donc, qu'est-ce que t'as pensé? Alors, on a deux matchs à la suite, qu'on a 10 minutes de catch, en fait, sur deux matchs. Et une DQ, une victoire de Sheamus. Voilà, alors Sheamus vraiment relancé, en tout cas très présent ce soir.
Oui, c'était le héros de l'épisode, en fait, Sheamus, hein, clairement. Tout a tourné autour de lui, la construction des segments backstage, la construction des matchs. Et puis, c'était bien, quoi, la mi Sheamus. Du coup, alors, catché quoi, un bon 20 minutes, si on cumule tout dans le...
Ouais, ça fait à peu près ça, ouais.
Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est parce qu'il manquait de... Alors, ce qui est bizarre, c'est que on était sorti sur un Sheamus, enfin moi j'étais sorti de la réalité Sheamus Jeff Hardy en disant c'est Jeff Hardy qui a gagné, c'est un peu lui le héros à mettre en valeur, et derrière c'est limite Sheamus qui finalement est le vrai héros, tu vois, il casse des gueules à Corbin, il fout des brocs qui en veux-tu en voilà, sous les vivas de la foule.
Alors que Jeff Hardy est finalement transparent, il gagne finalement le match contre Corbin par DQ parce que l'Irlandais, quoi. Mais...
Et il disparaît en plus derrière.
Et il disparaît.
Pleine gueule. Un magnifique, d'ailleurs, ce bro-kick. Les bro-kicks de Sheamus sur Jeff Hardy, je les trouve toujours magnifiques. Ils arrivent bien calibrés entre eux. Et puis après, il disparaît totalement. C'est les pouvoirs magiques de Jeff Hardy. L'autre jour, ils apparaissent dans la peinture sous un chapeau. Là, il disparaît après un bro-kick. Voilà. On a un nouveau magicien dans les studios, là.
Et voilà, le wizard de ketchup.
Voilà.
Voilà, derrière, ouais. On aura une petite. Après ça, on va avoir une petite interview de Biggie en coulisses. Voilà, quoi. Ça va être un truc assez court où finalement il va nous dire qu'il ne sait pas trop ce qui va se passer pour lui, mais qu'il promet qu'il va tout donner. Voilà, avec sa tête de fou, là, en étant bien chaud. Et voilà, qu'il va avoir le support de Kingston et de Ed Woods, mais que maintenant il est tout seul et il faut qu'il y aille, quoi. Alors, il va aller où? On ne sait pas. Vers quelle ceinture? On ne sait pas, parce qu'on subodore qu'il va être lancé dans une title pitcher. Je sais pas, moi, l'intercontinental, le titre suprême, ça me paraîtrait étonnant. Mais peut-être sur l'intercontinental, une rivalité Jay Styles Biggie, ça te brancherait ou pas?
Ouais, de toute façon, c'est là où il y a le plus de place, hein, de toute façon, hein, l'intercontinental. Parce qu'effectivement, le titre suprême, moi, pourquoi pas un jour y voir Biggie, mais pour le coup, c'est tellement phagocyté par les Braun et Bray que tu vois pas d'autres personnes, hormis donc. Notre ami Bliss, ça se mettre dedans, quoi. Biggie, effectivement, t'as plus l'impression qu'il va aligner 2-3 îles et puis après se mettre en course vers l'intercontinental. Et ça sera pas mal parce que Justal, forcément, c'est en termes de catcher, c'est un peu la référence dans le ring. Et Biggie, comme on en parle souvent, c'est un mec dont on attend plus par rapport à tout ce qu'il nous montre. Donc c'est le moment de le voir et d'avoir un mec peut-être qui le mette en valeur. Quoi. Ça serait une rivalité qui me plairait, moi.
Bon, on quitte Biggie là-dessus et on va suivre au prochain épisode. Derrière, on va avoir Bayley et Sacha qui vont être sur le ring et qui vont avoir une vidéoconf avec Stéphanie McMahon qui est en télétravail. La patronne, elle va les féliciter un peu pour toutes les réalisations passées. Voilà, qu'elles essayent. Alors, Bayley et Sacha vont nous faire le truc du rôle modèle. Voilà, on essaye d'être des exemples pour la jeunesse féminine. Voilà, que malgré la négativité, malgré les embûches, nous sommes là et on a tout l'or. Voilà, elles ont tout l'or. Et c'est vrai, c'est la vérité. Elles disent la vérité, elles ont tout l'or, quoi. Et du coup, Stéphanie McMahon, finalement, elle est là pour en faire un petit peu du booking, finalement. Elle va décider Alors, j'aime bien parce qu'elle va leur présenter ça en leur disant qu'elle ne veut pas leur donner l'impression de les punir, mais qu'elle a quelque chose quand même pour elle. Et ce quelque chose, ça va se passer à SummerSlam, où Banks va défendre son titre de Raw. Et pareil pour Bayley, qui va avoir une Battle Royale. Alors, une Battle Royale qui aura lieu la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, papy.
C'est ce que j'ai retenu aussi.
Ouais, c'est bien ce que j'ai compris. Un vendredi prochain, vous aurez donc une Battle Royale des trois brands, NXT, Raw, SmackDown, pour déterminer le number one contender de Bayley. Concernant le number one contender de Raw, Banks, on est d'accord qu'elle va affronter Asuka là.
Non, c'est seulement si Asuka bat Bayley lundi.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. En plus, on l'a fait ensemble. C'est vrai, mais ouais, t'as raison. Oui, c'est vrai que du coup, il va y avoir un match. Bah, Bayley va avoir un programme sympa en fait, elle d'ici SummerSlam. Elle me paraît bien occupée cette femme.
Bah oui, de toute façon, c'est comme toujours. Hein, ils les mettent partout, les quelques têtes d'affiche de division féminine, elles sont partout.
Hein. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que ça manque de profondeur de banc, comme dirait l'autre.
Et je ne sais pas si on en reparlera plus tard au niveau de quand tu feras les questions, mais c'est pareil au niveau de la Battle Royale. Est-ce qu'ils vont sortir de nouvelles têtes ou est-ce qu'ils vont encore taper dans les quelques têtes, visages connus et sûrs
On peut en parler là, il y a pas mal de femmes. Quand même, le roster de NXT, il est relativement conséquent au niveau féminin, quand même.
Ouais, donc, mais c'est l'équipe.
Il va y avoir quoi? Ça va être une battle royale à quoi? À 20 filles, je pense, tu vois.
Ouais, mais bon, les filles de NXT, à part celle qui a la ceinture, Yoshirai et éventuellement Ripley, les autres, t'imagines à SummerSlam contre Bayley et les autres? Non, pas déconner, quoi. Donc, ça, pour moi, il n'y a pas vraiment 50 solutions, quoi. Ou Charlotte, comme toujours. Ouais, ou effectivement Ripley qui passerait par là. Puis après, si c'est Naomi, si c'est, ça pourrait être Dana Brooke, si c'est comment elle l'appelle, la galloise là de NXT.
Tegan
Nox ou Candice LeRae. Enfin, si c'est des filles comme ça ou Miaim. C'est pas du tout le niveau, quoi. Ah voilà quoi. Le souci, en fait, on en parlait les dernières semaines, c'est qu'ils ont un peu détruit la division féminine. Derrière, il y a les championnes et derrière tout, c'est tout les détruit. Et du coup, bah, tu as du mal à imaginer un contender valable, en fait. Donc, ça laisse plus beaucoup de solutions, je trouve, pour avoir une affiche digne de l'événement. Toi, tu penses que tu
as qui, toi, en tête ? Moi, je suis plus optimiste que toi, quand même. Moi, je considère que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la division féminine d'avoir finalement une Battle Royale comme ça, où on va pouvoir avoir quelques talents de NXT qui vont débarquer un peu. Je pense qu'il faut qu'il y ait Rhea Ripley. Est-ce qu'ils vont pousser le bouchon jusqu'à mettre la championne Yoshirai dans cette Battle Royale? Je ne sais pas. Je trouve que c'est plutôt un bon plan du fait que justement, comme ça ne va pas, la division féminine, autant les mettre en paquet tout ensemble. Plutôt continuer dans des 1 contre 1 20 comme on a eu, tu vois, avec Lacey versus Naomi ou Riot versus Logan ou versus Morgan, tu vois, des choses comme ça qui finalement font avancer rien. Au moins là, il va y avoir un combat collectif, tout le monde aura sa chance. Je trouve que c'est pas si mal joué là, vu comment c'est pas bien de toute manière dans le show bleu, en particulier la division féminine là où c'est vraiment ça patauge de chez patauge. Donc, moi, je suis plus optimiste. Écoute, on verra pour la suite. Quoi.
Oui, non, mais je suis pas contre la bataille royale. Je suis comme toi. Hein. Franchement, ils n'avaient pas trop d'autres solutions vu le niveau des divisions féminines un peu partout en ce moment. Par contre, j'ai juste du mal à imaginer qui peut en sortir, en fait. Donc, j'espère qu'il y aura un joli line-up dans cette bataille royale et des vraies filles qu'on peut penser potentiellement championnes. Quoi.
Ouais, écoute. On verra ça dès la semaine prochaine, puisque voilà, comme vous avez Raw, SmackDown, hein, dorénavant, même combat, hein, on annonce pas mal de matchs et de programmes à l'avance. Bon, ça ne m'empêche pas de les oublier dans la semaine qui vient, mais, mais c'est vrai que maintenant, on nous annonce de plus en plus des matchs la semaine à suivre, même de temps à autre, des vignettes NXT, ça peut arriver maintenant. Donc, voilà, il n'y a pas eu de baston du mercredi cette semaine, mais on peut signaler que la IW a encore gagné la guerre des ratings hein, cette semaine. Mais par contre, la satisfaction, c'est que les deux Brand ont fait des très beaux scores puisque je crois que si je ne me trompe pas, la IW a dépassé les 900 000 téléspectateurs et SmackDown est remonté très haut aussi. NXT est remonté à plus de je crois 760 000 spectateurs ou quelque chose comme ça. Donc a pris 60 ou 70 000 spectateurs de plus que par rapport à la semaine d'avant. Donc c'est bien, ça a l'air de booster les deux programmes quoi.
Donc, oh, c'est bien lorsqu'ils arrivent à se remettre un peu à flot.
Donc les ratings montent des deux côtés. Mais voilà, et c'est toujours la AEW qui est en tête encore cette semaine sur les ratings. Voilà, c'était le petit point baston du mercredi. On revient à SmackDown, on revient pour un tag team match entre Le Miz et John Morrison contre Heavy Machinery, hein, Otis et Tucker. Voilà, qui s'était promis qu'ils allaient se mettre dessus. Otis nous a dit qu'il n'était pas content et qu'il allait vider sa colère. Alors pour vider sa colère, bah, Otis il n'aura eu que 9 minutes. Alors évidemment, on n'a pas une seule évocation concernant la mallette ou quoi que ce soit. Elle est là. C'est un peu la potiche avec Otis, la mallette. Quoi. Elle est là, elle fait jolie. On nous le rappelle de temps à autre du bout des lèvres de la part de Cole et Graves. Mais voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc un match de 9 minutes. Otis va porter son caterpillar sur Morrison. Miz va sauver quand même Morrison sur ce coup-là. Les deux équipes vont se battre à l'extérieur et pendant qu'elles sont en train de se marave à l'extérieur, qui c'est qui débarque ? Une Mandy Rose avec les cheveux courts. Et oui, les cheveux courts, puisqu'elle s'était fait couper la semaine passée. Et voilà, et elle va s'en prendre à Sonya Deville. Les lutteurs, alors c'est les mecs qui étaient en train de se mettre dessus, qui étaient en match officiel, les quatre en haut qui vont venir les séparer. Deville, elle va quand même réussir à porter un spear à Mandy Rose. Et finalement, on voit les deux groupes qui vont continuer à se courir après, à se taper dessus, etc., jusqu'en coulisses. Et là, bam, les lumières s'éteignent. Ah.
Undertaker.
Ah, ah, Oh, ça aurait été bien.
Mais faut pas rêver, faut pas rêver.
On sait, pour une raison out of nowhere, mais voilà, ils auraient été nous chercher le Taker. Voilà, ça aurait pu être marrant. Mais non, en fait, c'est pas ça qui va se passer du tout. Il va y avoir 5 énergumènes. Alors, en l'occurrence, il semblerait 2 femmes et 3 hommes qui vont faire leur entrée sur le ring. Voilà, munis, armés jusqu'aux dents, prêts à bondir, munis de battes et de barres de fer. Et ils vont aller chasser direct Michael Cole et Corey Graves qui vont se carapater vite fait en coulisses. Ils vont renvoyer aussi également les caméramans ringside, vous savez, là, toute l'équipe technique en fait, qui est ringside, le timekeeper, etc. Et donc, la Retribution fait une entrée en fanfare, oserais-je dire, à SmackDown, en s'en prenant au public, en cassant plus ou moins tout, en renversant la table des commentateurs. Ils vont commencer à attaquer les personnes qui sont présentes autour du ring, donc qui sont en l'occurrence des prospects de NXT. ils vont sortir les bombes de peinture, ils vont commencer à taguer des WWE barrés d'un trait un peu partout, sur tout le set, quoi. Tout le stage va se prendre du tag dans tous les sens. Et au bout d'un moment, il y en a un qui va nous sortir une tronçonneuse, les amis. Oui, oui, une tronçonneuse. Alors, ils sont tous cagoulés, hein, je ne l'ai pas précisé. Ils sont tous pour juste distinguer qu'il y a 2 femmes, elles ont les cheveux qui sont en dehors et elles sont.
Puis elles tapent les femmes.
Voilà, ouais, et elles s'attaquent aux femmes. Donc, c'est comme ça qu'on devine qu'il y a des femmes dans le groupe. Et alors, la tronçonneuse. Sur le coup, je me suis dit, il va descendre, il va couper les turnbuckles, il va s'attaquer aux barricades, etc. Le mec, il a coupé les cordes.
Le dingo!
Le ouf dingue, quoi, le fou malade, quoi. Le mec, il coupe des cordes de ring avec une tronçonneuse. Là, c'est le drame. Et au moment où ils sont. Ils sont tous les 5 en haut du ring. L'autre va commencer à lever la tronçonneuse et tout ça. Et ils vont chacun un peu aller taunter tous les mecs qui restent encore ringside. Et c'est là que j'ai réalisé, moi. J'ai fait, mais il y a un problème quand même, c'est que ces mecs, ils sont tout petits.
Ah oui.
Après, je me rends compte, il y a 2 nanas. Ah bah tiens, on va voir quand les gars vont se rapprocher des nanas au milieu du ring, on va voir un peu ce que ça va donner. Effectivement, le gars avec la tronçonneuse se rapproche, et là je me rends compte que la nana est de la même taille que lui, quoi. Et je me dis, mais merde, c'est un effet d'optique où on nous a mis un clan de nains, là, ou on nous a mis un clan de... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est à peine des cruiserweight, quoi. Et voilà, et là je me dis, il va se passer un truc, ils vont retourner en coulisses et on va les voir tout fracasse en coulisses. Et ben non, le show s'arrête là-dessus. Ça se termine avec la dernière image, c'est le mec avec la tronçonneuse qui la porte bien haut. Et voilà, et Retribution, heureux d'avoir tout fracassé à SmackDown. Et le show s'arrête ainsi. Alors, la papille, j'imagine, grosse analyse là. Dis-nous tout, que s'est-il passé ?
Tu me laisses plein de choses à raconter là. Entre le. Bon, je vais évacuer la partie Otis, tout ça, parce que. Ça n'avait pas d'intérêt, ça servait juste à introduire le gang des crevettes. Et donc, le gang des crevettes, c'est un gang qui fait très très peur parce que c'est un gang, il prend des bâtons et il tape sur le ring. Pa, 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 attention, on fait du bruit. Ensuite, il va courir et il fait courir les autres gens. Il va à un
C'est
moment retourner une table. Oh! Ils se mettent à quatre pour tabasser une pauvre fille du Performance Center. Ça aussi, c'est violent. Et puis voilà, ils font des tags avec de la peinture qui marche pas. Ils font
Ouais, c'est vrai.
ils se
C'est
mettent
vrai,
trois fois, on a essayé
j'avais
de barrer le logo SmackDown. Il y
oublié
a, effectivement, il y a le WWE qui est pareil, qui est à peu près réussi. Mais alors, tout le reste, tu comprends pas les trucs. C'est vraiment, ils font des zooms sur les tags, mais tu sais absolument pas lire ce qu'ils ont voulu marquer parce que la peinture, ça marchait pas. Là, bon, ils se baladaient avec un sac avec
Ils
les
essayent de
bombes.
tirer, je te le coupe, je me rappelle juste, ils essayent de tirer sur un plexiglas aussi à un moment, et ils n'y arrivent pas. Et
C'est ça, ouais.
le mec laisse tomber, quoi.
Ils arrivent pas à tirer sur le plexiglas. Bon, ils se baladaient avec un petit sac où il y avait les bombes, mais en plus, a priori, il y a un mec qui a sorti de son cul une tronçonneuse, peut-être pas d'où elle sort, mais bon. Et puis, ils coupent une corde. Allez, allez, on coupe la corde. Et puis voilà, c'est fini. Et puis, effectivement, ils font tous 1,30 m. Et ils crient, hein. Oh, et puis ça fait bip, bip, parce qu'ils doivent certainement dire des gros mots, mais enfin, voilà, c'est la Nexus version cheap, en fait. C'est-à-dire qu'ils attaquent personne, ils cassent rien, ou presque rien, et puis ils font tous 1,30 m. Donc, oh là là! Qu'est-ce qu'ils font peur, ce gang? Et en plus, ils coupent les lumières de temps en temps. Moi,
Et
je me
pour
flippe
ça,
pour la
voilà.
prochaine semaine.
Pour rappel au public qui a fait l'erreur immense de ne pas aller écouter la review de Raw, ces gens-là sont déjà intervenus à Raw, et pas directement sur le ring, mais ils ont foutu le feu à un groupe électrogène au Performance Center. Donc là, ils font une deuxième apparition à SmackDown. Il n'y a pas eu d'évocation à Underground. Hein. Là, on n'a pas eu droit à un SmackDown Underground ou je sais pas quoi, là, pas de Chain
Non,
hein,
les deux
à
sujets sont
SmackDown.
vraiment distincts, a priori.
Ouais. Donc là, on est resté sur Retribution. Et donc voilà, donc quel est ce clan, peuple de catch-up? Dites-nous dans les commentaires, dites-nous tout, parce que là, franchement, quel est ce clan? Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce qu'on sait qui est derrière ce truc-là? Qui book ce truc-là? Et qui a eu l'idée de génie de la tronçonneuse pour couper les cordes? Je veux connaître le responsable de ce booking de génie, n'est-ce pas, papy?
Oui, bon après, la tronçonneuse c'était le seul truc qui était original parce que du coup quand tu le vois sortir la tronçonneuse, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Et puis tu te dis, oh, il va faire un truc et puis vous, hop, une corde coupée. Prochaine étape, ils arrivent avec des paires de ciseaux, je pense, hein. Attention, hein, c'est des fous.
Ah non, mais là, on est face à des fous malades, on est face à des fous dangereux. Et voilà, ainsi se termine ce SmackDown du 7 août 2020. Mon bon papy, tu vas toper, tu vas flopper, tu vas noter.
Eh bébé, ça va être compliqué. Alors, au niveau du flop, je vais le donner. Alors, il y a beaucoup de choix. Je n'ai pas le caché. Mais je vais le donner de manière assez logique à notre ami Braun Strowman dans son jardin. Parce que ça m'a exaspéré de voir finalement la rivalité pour le titre suprême être fait de manière aussi dégueulasse, quoi. Donc, même, je pardonne au tagger fou, là. Mais Braun Strowman dans son jardin avec un grand ciel bleu derrière, ça m'a gavé. Le top, bah en fait, il n'y en a pas beaucoup de choix. Donc, du coup, c'est facile. Je vais le donner à Sheamus. Sheamus, le
Ah.
patron du show du
Ah
soir. Il a tout fait. Tout ce qui était intéressant. Enfin, ouais, intéressant. Il y avait Sheamus dedans. Voilà, c'est simple à dire sur ce SmackDown. Et ma note, bah, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure qu'on a fait la review, au fur et à mesure, je baissais ma note. Tu vois, j'étais parti en disant, je vais mettre un 2,25. Puis, oh non, je vais mettre un 2. Et là, je me dis, oh non, je vais mettre à 1,75 parce que franchement, le main event, c'était tout naze, quoi. C'était
ah ouais.
ridicule. C'était vraiment ridicule, quoi. Donc, je mets à 1,75, je ne mets pas une note plus basse parce qu'il y a quand même ils essaient de mettre des idées, mais c'est tellement mal réalisé, tellement. Ah oh là 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 là, j'avais envie de me taper la tête contre le mur. Mais voilà, donc, continuez d'avoir des idées, mais faites un effort dans la réalisation. Je sais que c'est pas facile avec le Coronamania. Mais dans ce cas-là, faites, je sais pas, faites quelque chose de plus court, des plans plus serrés, des images plus choquantes, peut-être un mec qui se faisait vraiment casser la gueule, tu vois. Mais là, c'était pas terrible.
Ouais, bah, je te
Hein. Et
rejoins
toi, t'en penses?
malheureusement dans toute cette analyse. Voilà, encore une fois, on se retrouve à. Bon, bon papy, on n'est pas gâté hein, dans cet été 2020, hein, parce que vraiment, les choses sont d'une qualité vraiment tellement faible, tellement faible, tellement faible. Comme toi, hein, je vais donner mon top à Sheamus, hein, parce que clairement, ça a été le patron, pas vrai baron, ça a été le patron du show. Voilà, quoi, c'est lui qui aura eu finalement le plus de temps d'antenne, c'est lui qui aura eu le plus d'action, et c'est lui qui aura mis tout le monde d'accord en cassant des gueules à tout le monde. Finalement, c'est un peu ce qu'on attend d'un catcheur. d'autant plus un Grand Slam champion. Donc merci Sheamus d'avoir remis l'église au milieu du village. Écoute, moi, alors mon flop, j'aurais pu le mettre à plein de trucs, parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont saoulé, qui m'ont pas intéressé, qui je trouvais, voilà, la Retribution à la fin, le coup de la tronçonneuse, tout ça, c'était imbitable le truc, quoi. J'ai même pas, tu lèves un œil en disant, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font, et voilà, et encore, je te dis, il y aurait eu un grand géant dans le tas, un mec énorme qui serait arrivé, tu vois, quoi, qui aurait commencé à casser 3-4 gueules, surtout que. Ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est qu'il y avait des mecs physiquement ringside qui étaient deux fois plus impressionnants que les mecs de Retribution. Je pense à un gars, je ne sais pas si tu l'as calculé, un gars au niveau de la rampe sur le côté qui était en t-shirt bleu avec les cheveux longs, qui avait l'air d'être une baraque, mais alors...
Ah, c'est longtemps qu'il est là, lui. C'est
une grosse couette. Souvent, lui, ouais. Et c'est un bon gueulard et tout, quoi. Mais je serais curieux de voir ce qu'il donne dans le ring parce que lui, il a un physique en tout cas, quoi.
Et moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est que les mecs de SmackDown, il n'y a personne qui n'attend rien, quoi.
Ah oui,
alors, la lumière, c'est comme des oiseaux, ils s'endorment, quoi.
Ouais, alors oui, alors ça, c'est une bonne question, tiens. Où était le roster voilà, c'est-à-dire que tu as un roster de catcheurs, tu as 50 molos qui évoluent dans le locker room tous les vendredis soirs, et tu as 5 crevettes qui débarquent et qui pètent tout, et le roster, eh ben, il reste tranquillement. Trop peur du Covid, certainement, les gestes barrières.
Ah, peut-être.
Ouais, oui, hein, on en est là. Hein. Alors écoute. Tout en discutant, je réfléchissais sur mon flop. Bah, mon flop, du coup, je vais le donner au dirt sheet et au truc. Il y a la feud, rivalité, mes gna gna gna, mes cheveux, gna gna gna, bumpy, gna gna gna. Oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce que c'était long. J'ai pas fait de fast forward parce que j'ai de la conscience professionnelle, mon papy. Hein, mais je te jure que le tonton Chris, dans ces moments-là, je suis au fond de mon siège là et je me dis non. Alors déjà qu'on suinte et qu'on dégouline et qu'on transpire déjà suffisamment avec voilà. Les chaleurs qu'il fait en ce moment. Mais là, non, là, moi, ça n'a pas été possible, ce segment. J'ai dit, non, mais c'est vraiment trop de la merde. Voilà, je le dis, c'est fait. Voilà, c'était de la merde. Ce dirt sheet, ça portait bien son nom. Voilà, et ma note, oh là là, ma note. Bah, écoute, ma note, moi, je crois que je vais noter plus bas que toi. Moi, je vais mettre qu'un 1,5. Quoi. Vraiment, je me suis emmerdé pendant ce SmackDown. Quoi. Alors là, moi, quand je m'emmerde pendant SmackDown, moi, le seul truc qui me sauve la mise dans ces shows-là, dans ces cas-là, c'est le main event. C'est qu'il se passe un truc au main event, voilà, un vrai beau main event. Et ben non, ben là, on n'aura même pas eu le cas. On aura eu ce truc, là, de Retribution. Voilà, moi, finalement, on aurait pu les mettre en opener, faire tout péter, et puis après, voir les mecs évoluer dans le ring avec les cordes coupées, avec plus d'électricité, etc. Voilà.
C'est marrant, ça, ouais.
Voilà, bon, après le chaos, voir un peu comment serait comporté le roster. Mais bon, enfin voilà. Donc la suite hein, avec Retribution, parce qu'apparemment, là, ils sont partis pour apparaître un peu partout. Et on les annonce un peu partout, là. Donc, pas suivez NXT. Ils sont pas apparus à NXT cette semaine. Mais suivez Raw, suivez SmackDown. Vous avez dorénavant un nouveau clan qui est là. Et ouais. Bah voilà, on va voir au fur et à mesure. Est-ce qu'il va y avoir le fameux hacker? Tiens, voilà une autre question qu'on pourrait poser. Le fameux hacker qui a disparu. Est-ce qu'il est dans cette troupe?
Moi, je pense qu'il serait utile pour surtout à Raw avec l'empoisonnement en plus de Montesford. Il y a des mystères là en ce moment, donc il serait utile pour démêler un peu tout ce bordel, le hacker là, qu'il sorte un peu les doigts. Mais j'ai peur qu'il ait totalement disparu, ce garçon. Il est peut-être sous le ring encore, sous gueule.
Ouais, certainement, ouais. Alors voilà, bah voilà, pas plus de catch-up, on est arrivé au bout de cette review. Alors on va juste faire un petit point parce qu'il y avait eu notre ami Gilou, le point Gilbert. Qui nous avait parlé un peu d'Otis, qui nous a fait un long com sur la dernière review de SmackDown qu'on avait fait. Et il nous avait parlé pas mal d'Otis et ça m'avait fait rigoler parce qu'il nous dit je résume hein, mon bon Gilou à Otis de le long com que tu nous as écrit, on te remercie. Mais il nous parle d'Otis et il nous fait mon Dieu, Otis, non mais Otis, ça devient une horreur. Sa mallette ne sert que de faire valoir et son manque de présence l'empêche de réussir quoi que ce soit dans la division. Où il peut remporter son premier titre. Alors là, première question, j'ai envie de dire, quelle division, quel titre, à quelle ceinture il va s'attaquer finalement, Otis, quoi. Et lui, il propose qu'on donne la mallette à un heel, alors qu'on la redonne à King Corbin. Alors là, par contre, on ne va pas être d'accord, mon Gilou. Hein. Et à Sheamus ou à Shorty G. Alors, voilà.
Shorty G, non, pas déconner.
On peut envisager un régime pour Otis, alors il nous demande qu'est-ce qu'on en dit, tout ça. Mon bon papy, qu'est-ce que t'en dis de l'histoire de Otis là? Qu'est-ce qu'on fait avec... En fait, finalement, je vais schématiser la question de Gilou, c'est simple, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait d'Otis en tant que Mr. Money in the Bank?
Bah, je pense qu'il y a du gros boulot à faire là. Ils ont un peu tout déconstruit le peu de choses qui avaient été faites avec lui. Alors, je suis d'accord, il n'y a plus de public pour l'aider, donc c'est moins facile. Mais même in-ring, quoi, il y avait quand même gagné sur la rivalité avec Dolph Ziggler. C'était pas terrible, mais il restait sur une victoire. Et puis derrière, disparition totale. Il fait des segments vidéo avec Mandy. Il oublie sa mallette une fois sur deux. Il sait pas même plus. Enfin, là, hier soir, enfin, vendredi soir, le coup du je vais me mettre en colère, mais enfin, je me sens que c'est avant Mania où il avait fait un segment où il était vraiment en colère, où il avait tout pété, qui du coup, il avait raté l'opportunité d'être. Pour la ceinture tactile ou un truc comme ça. Et là, pour le coup, il était vraiment en colère. Tu avais vraiment l'impression qu'il pétait un câble et tout. Et là, par contre, là, c'était je vais mettre en colère. Et puis, il n'y a pas eu de fait derrière, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment tout cassé son. Il n'était pas déjà très emballant au départ, mais là, ils ont tout cassé, quoi, pour Otis. Donc, pour moi, il doit repartir de la base, il doit tout reconstruire, quoi. Donc, peut-être refaire un petit run en tag team, le temps de se remettre un petit peu sur le devant de la scène. Et après, ouais, moi, ça m'aurait bien plu qu'il fasse un match mallette contre quelqu'un pour donner un petit peu d'intérêt à la mallette et à son porteur. Tu sais, limite comme un champion combatif, tu vois.
Ouais, alors moi, j'ai pas cet avis-là là-dessus. Moi, je pense que de toute façon, enfin, oui, effectivement, on pourrait organiser un match. Otis, un mec pourrait venir un peu le chauffer en lui disant, mais voilà, mais tu fais rien de ta ceinture, ta mallette. Moi, je la veux, ta mallette. Moi, je saurais quoi en faire. Le provoquer, puis effectivement lui faire perdre sa mallette sur un coup comme ça. Ça s'est déjà fait, je crois. Il n'y avait pas eu. Enfin, il y
Bah,
avait eu.
Mr. Kennedy le perd comme ça.
Ouais,
Mr.
ouais.
Kennedy la perd contre Edge comme ça.
Damien Sandow aussi, avec Cody aussi. Il y avait eu une longue rivalité autour de la mallette
Ouais.
entre
Et
les
je crois
deux.
qu'RVD aussi avait remis sa mallette en jeu.
Et RVD aussi, il me semble, avait pratiqué ce genre de choses. Mais moi, tu
Ouais.
vois, en fait, ce que je pense, vu comment, pour moi, c'est un échec. Hein. C'est clairement un échec, cette mallette de 2020. Je pense que c'était une erreur fondamentale. En plus, à chaque fois que je repense au line-up du match de ce Money in the Bank, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté que ça soit Otis qui ait gagné cette mallette. Alors moi, quitte à évacuer définitivement cette histoire de mallette avec Otis, et ben, ce que je ferais, c'est que tout simplement, je ferais en mode poteau et je ferais profiter Tucker de la mallette et je ferais cacher Otis sur une tag team pour le titre tag team. Point barre. Et puis qu'on évacue, puis qu'on n'en parle pas. En plus, ça serait historique, hein. Je crois que ça ne serait jamais arrivé encore. Je crois qu'il n'y a jamais encore aucun détenteur de mallette qui a caché pour le titre tag team. Voilà, ça permettrait à Michael Cole de faire l'histoire, ça serait bien, tu vois. Ça nous évacuerait vite fait cette histoire et qu'on oublie ce cauchemar, parce que moi, en fait, voilà, on est en août, et à chaque fois que je vois Otis débarquer avec sa ceinture, avec sa mallette, je me dis, oh non, mais non, encore et encore et encore. Faut qu'on en termine avec ça. Voilà, qu'on mette les Heavy Machinery champions et puis qu'on n'en parle plus. Effectivement, après votre solution, on fait un match contre dans une rivalité un contre un et puis il perd sa mallette à la régulière, pourquoi pas, mais
Il perd ou pas, hein, de toute façon, mais par exemple, si tu le mets en rivalité avec Sheamus, par exemple,
ouais.
bah, si il perd, il perd, et s'il gagne, bah, au moins il a une rivalité contre Sheamus, tu vois, c'est
Ouais,
plus
mais sur quelle ceinture individuelle tu le fais cacher alors?
Braun, enfin, sur Braun ou sur Bray, ou j'en sais rien, tu te fais.
Ah ouais,
Et
carrément
est-ce
sur
qu'il se
titre
foire? Bah, non,
universel.
mais après, il peut peut-être se foirer, hein. C'est
Ouais.
genre, il tente un truc poussé par Mandy, là, ou il veut la tente à la réglo de dire je fais un match un contre un, et puis il perd en un contre un, un peu comme Cena avait. Qui avait programmé, c'est Cena qui a programmé sa ceinture en disant je le cacherai ce jour-là dans tel match. Il peut la jouer comme ça vu qu'il est face.
Ouais, c'est vrai,
Mais
c'est pas.
effectivement, là, il est plutôt intéressant. Et en fait, le souci de partir en tag team, moi j'ai peur que ça tue, ça mette le dernier coup de pelle sur la ceinture, la mallette Money in the Bank en fait. Parce que là, entre celle de cette année qui a été faite pour donner une ceinture directement et l'autre qui serait pour donner un match tag team, ça me rappellerait, tu sais. Je sais pas si tu te souviens quand il y avait eu les. À l'époque, au tout début, NXT, c'était un championnat pour les jeunes. Et quand tu gagnais NXT, tu avais le droit à un match pour le titre de champion du monde, du main roster. Et donc, première année, c'est Barrett qui le fait et puis qui affronte Orton, je crois. Et deuxième année, c'est Caval qui gagne. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un pauvre match intercontinental qui perd. Et directement, derrière, ça avait flingué NXT. T'avais plus rien. Ils n'ont plus jamais fait de match, je crois, derrière. Et ça me ferait un peu cet esprit-là si jamais tu faisais la Money in the Bank sur un tag team. Alors, ok, tu ferais ça historique, mais franchement, ça serait une année dégueulasse sur le Money in the Bank dans ce cas-là.
Ouais, dégueulasse, mais c'est déjà une année dégueulasse sur le Money in the
C'est
Bank,
pas faux.
de toute façon. Moi, je crois que, franchement, le pay-per-view déjà en lui-même avait été assez décent. Pendant le match en lui-même, le Money in the Bank masculin-féminin qui était ensemble, moi, finalement, je m'étais beaucoup plus intéressé à ce qui s'était passé chez les filles, parce que chez les mecs, j'avais été mais déçu par les 10 dernières minutes, un truc de fou. Tu n'étais pas avec nous sur la review de Money in the Bank, je sais plus, je me souviens plus.
Je pense pas.
Je crois pas, hein. Tu avais pensé quoi de ce fameux match, hein?
Bah, je crois que c'était pas assez, assez loin dans la comédie, et puis le segment final était assez moyen, quoi. Effectivement, le oh, attention, la ceinture glisse, hop, c'était, ouais.
Ouais.
C'était, en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient pas assez au fond de leurs idées, tu vois. Ils avaient bien l'idée de faire un match comme ça avec les deux d'un coup, c'était pas mal. Les deux Money in the Bank d'un coup, surtout que les filles c'était marrant, les fois ils se croisaient en fait. Mais par contre, ça avait été trop cheap, voilà, encore une fois cheap.
Ouais, moi j'avais été vraiment vachement déçu, quoi. ça a été un truc assez. Ouais, je comprends pas. Je vraiment Otis, hein, c'est tout un débat Otis, hein, parce que vraiment depuis le début, je ne comprends pas vers où ils vont avec lui et quel intérêt ils ont trouvé à ce gars-là à le mettre finalement. Quand t'es Mr. Money in the Bank, t'es dans la title picture et il y est pas finalement depuis le début. La réalité, c'est qu'il
et
y est pas.
Et plus ça avance, plus il descend dans la carte.
Et les seules fois où il est apparu proche de Braun Strowman sur les un ou deux segments ou un ou deux matchs tag team, etc., il l'a joué en mode ouais, je suis super poteau, check Braun, tu vois. Donc, on peut pas dire qu'il apparaissait comme une menace super crédible avec sa mallette.
Ouais, et puis après, il a disparu.
Voilà. Et puis, là, il est de retour et écoutez, on verra ce qui se passera. Écoutez, les amis, on a fini. Voilà, mon ami Gilou, on a répondu surtout à ta question principale qui concernait Otis. Merci encore à toi d'avoir laissé les coms sous YouTube. Un grand habitué de Discord aussi, notre ami Gilou. Ça me permet de faire la transition et de vous balancer la promo. Alors, la promo, comme on l'a donc dit, rejoignez-nous sur le Discord, rejoignez-nous sur YouTube, actionnez la cloche, mettez-nous des likes, mettez-nous des commentaires. Nous n'hésiterons pas à vous citer à l'antenne. Le site officiel, c'est catchup.lepodcast.fr. Et bien sûr, vous nous trouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et vous nous trouvez avant toute chose, pour nous écouter dans votre petite voiture, là, sur votre clé USB, où vous nous avez téléchargé amoureusement. Merci encore. Vous nous retrouvez donc sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcasts, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast. Vous avez vu, je vous ai fait une double discrètement. Mon bon papy, merci beaucoup à toi d'avoir été mon tag team partner dans le merveilleux monde du show bleu.
Bah, merci à toi, tonton, de m'avoir fait partager ta sueur. C'était un moment intense.
Ah ouais, là, une review comme ça, là, c'est 2 kilos perdus. Remarque, c'est pas mal pour le régime.
Hein. Ouais, c'est bien, on a fait un beau sauna, là.
Ouais, clairement. Allez, c'est sur ces belles paroles qu'on va vous laisser. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut papy.
Salut tonton et salut à tous.
Salut peuple de catch. Otis, Sleep in the Bank. C'était ça le titre de la review de Money in the Bank à Catch-Up.
Ah bah je comprends. Et là j'ai l'impression que c'est Otis la descente aux enfers depuis. Hein. C'est vraiment pas génial.